Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, nous mourons de la Révolution. Notre peuple meurt de la Révolution. Sans un retour à l'ordre naturel et chrétien, tant que les droits de l'homme prévaudront sur les divins droits de notre Seigneur Jésus-Christ, une épée de Damoclès menacera de façon immédiate l'existence même de notre nation canadienne française, qui a été fondée par le sang des martyrs et la foi catholique. Même les révolutionnaires, qu'ils soient tranquilles ou non, admettent la fin inéluctable de cette cascade révolutionnaire, révolution nationale, révolution morale, révolution religieuse, qui affecte notre nation depuis 1960. La disparition. Disparaître est le titre d'un film animé par Lise Payette qui résume de façon réaliste le destin de notre peuple. Pourtant, cette même Lise Payette porte au nu cette même révolution tranquille et n'a pas conséquemment de solution pour sauver la nation française en Amérique. C'est pourquoi nous devons étudier la révolution, ses principes et ses troupes régulières pour les renverser et restaurer l'ordre et assurer la survie et l'épanouissement de la nation canadienne-française. C'est ce à quoi s'appliqueront messieurs Delassus et Berger aujourd'hui et demain. Ce midi, monsieur l'amiral Berger exposera la philosophie de la révolution et les droits de l'homme qui sont le véhicule idéologique de cette révolution dans la société contemporaine. Ce soir, monsieur le baron Delassus présentera l'activité, les fondements et les fruits de la franc-maçonnerie qui est depuis le 18e siècle le principal organe qui répand et développe l'esprit de la Révolution dans les pays occidentaux. Au nom du cercle des jeunes catholiques traditionnalistes de l'Université Laval, je cède donc la parole à M. Lédéral Berger, membre du conseil de direction de la revue et du mouvement Action familiale et scolaire. M. Lédéral Berger, à vous la parole.
Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ces réunions de nous donner l'occasion d'être ici à Québec et soyez sûrs que nous sommes conscients de l'honneur qui nous est fait de faire ces quatre exposés dans le cadre prestigieux de cette université Laval et tout particulièrement dans ce bâtiment au souvenir de Charles de Coninck. En avril 1985, c'était le 65e congrès de la Ligue des droits de l'homme, le président de la République française affirmait « L'idée des droits de l'homme reste une idée neuve, c'est aussi l'une des grandes causes pour lesquelles sont capables de se mobiliser la jeunesse de France et la jeunesse du monde. » Nous aurons l'occasion de revenir sur cette déclaration du président, mais il est vrai que l'expression « droit de l'homme » comporte une connotation sympathique et même séduisante. Comment pourrait-on être contre les droits de l'homme? Tout le monde est pour les droits de l'homme, au point que c'en est devenu une véritable religion, un dogme, le seul peut-être, autour duquel se rassemblent des hommes et des institutions. Le tout d'ailleurs fort divers, voire divergent, sur bien des points. Et à une époque où se sont développées toutes sortes de totalitarismes, où la personne humaine est atteinte, en beaucoup d'endroits, évoquer les droits de l'homme paraît en effet fort utile, voire indispensable. Disons tout de suite, pour introduire notre sujet, que cette expression « droit de l'homme » reste cependant très ambiguë. Ne serait-ce que parce qu'il existe de multiples dit la déclaration de ses droits. Il y a celle à laquelle tout le monde pense, celle de 1789. Mais elle n'est pas la première. Elle succède à la déclaration américaine de 1776, qui, à la différence de celle de 1789 d'ailleurs, fondait les droits de l'homme sur la volonté divine. Déclaration américaine, elle-même inspirée du Bill of Rights de 1689 en Angleterre, lequel lui-même, d'après, écrivait cet avocat de Maître Donorio, lequel Bill of Rights était l'achèvement d'un travail commencé par Édouard le Confesseur au XIe siècle et par Jean sans Terre en 1215. Et puis, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, 1948, qui prend en compte la famille, elle. Et puis, il existe une charte détaillée des droits de l'homme, proclamée en 1963 par le pape Jean XXIII dans l'encyclique Pacem in Terris. Il y avait eu des droits fondamentaux de Pie XII dans un message de Noël 1942. Droits fondamentaux, en effet, parce que pour éviter de confondre le langage de l'Église et celui de l'ONU, tous les deux pourtant assez liés, c'est vrai, par la vision du péril provoqué par l'apocalypse de la Deuxième Guerre mondiale, Pie XII n'employait l'expression « droit de l'homme » qu'en citation, sinon il parlait de droits fondamentaux. Cette réserve s'est estompée ensuite chez le pape Paul VI, et a disparu chez le pape Jean-Paul II, qui emploie équivalemment l'expression « droit de l'homme » ou « droits fondamentaux ». Qu'y a-t-il de commun, y a-t-il quelque chose de commun entre ces diverses déclarations? On pourrait souligner que tout le monde évoque ces fameux droits pour défendre des causes qui paraissent souvent bien éloignées. C'est au nom des droits de l'homme que le régime communiste totalitaire a signé les accords d'Helsinki. C'est derrière le pavillon, certes le pavillon de complaisance, il faut bien le dire, que se rassemblent aussi bien les défenseurs que les détracteurs de l'avortement. C'est au nom des droits de l'homme qu'il était envisagé en France, hors de toute référence au bien commun, d'étendre le droit de vote aux étrangers. Pavillon de complaisance, donc, servant à faire passer des marchandises de contrebande, simples instincts élevés au rang de droit, et parfois, il y a même là, un moyen d'affranchissement de la conscience morale et de dissolution de l'ordre social. Facteur de subversion, l'invocation des droits de l'homme l'est notamment quand elle est utilisée dans un sens unilatéral et exclusif contre certains régimes politiques, tout en épargnant d'autres régimes pourtant plus terribles. Il n'est pas de domaine, en effet, où les droits ne sont évoqués, mais il n'est pas de domaine où, dans le même temps, il n'y est pas porté atteinte. Il suffit d'évoquer les violences en tout genre, la dégradation des mœurs, qui font de la vie en société davantage un obstacle plutôt qu'une aide à l'épanouissement de la personne. Cette introduction n'a pas d'autre but que de montrer la nécessité d'une réflexion en profondeur, d'une réflexion rigoureuse et non simplement sentimentale et subjective, sur un thème qui porte à tant d'interprétations. Il faut en effet une réflexion en profondeur sur les fondements de ces droits. Le pape Jean-Paul II, à Denver, a cet été évoqué la société occidentale en disant que les droits de l'homme sont affirmés, mais comme ils ne font référence à aucune vérité objective, ils sont privés de toute base solide. Il faut donc nous interroger, quand on parle des droits de l'homme, sur les bases de ces droits. Nous le ferons en deux temps. La première partie sera un constat. Qu'entend-on communément par droit de l'homme aujourd'hui? Et nous raisonnerons essentiellement sur la déclaration de 1789. Deuxième partie, ces droits sont-ils de vrais droits? S'agit-il de droits fondamentaux, pour reprendre l'expression de Pie XII? Et s'il est des droits fondamentaux, quels sont-ils? Comment sont-ils fondés? Où les trouver? Là. Dernière partie, conclusion, sera plus axée, alors que nos deux premières parties resteront, je dirais, dans le domaine de la raison naturelle. La troisième partie, plus sur des raisons en conclusion, beaucoup plus brève, replacera ses droits dans une optique catholique cohérente. Les droits de l'homme, donc, première partie, dans leur conception moderne. La proclamation des droits de l'homme apparaît comme une protestation, comme une garantie, disons, contre l'arbitraire, contre l'abus de pouvoir, contre la tyrannie. C'est la liberté contre l'oppression, c'est l'égalité contre l'injustice, le droit contre la violence. Dans son article 2, la Déclaration des droits de l'homme, je cite donc toujours celle de 89, même quand je ne précise pas, donc dans son article 2, cette déclaration reconnaît comme droits naturels et imprescriptibles la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle stipule, dans son article 5, que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas, et que la loi ne peut étendre, ne peut interdire que les actions nuisibles. Dans son article 7, elle prévoit que nul ne peut être accusé, arrêté, que dans des cas fixés par la loi. Il y a bien là, on le voit, une réaction, une tentative de réaction contre l'arbitraire qui recouvre toute une philosophie. Ces droits s'appliquent comme une garantie contre l'arbitraire, mais qu'appelle-t-on arbitraire? Qu'est-ce qui est arbitraire? L'opinion se croit, par les droits de l'homme, mobilisée contre des abus de pouvoir, et de pouvoir quel qu'il soit. Mais ce n'est là, je pense, qu'une vue très incomplète. Nous aurons l'occasion de montrer qu'il y a dans ce refus de l'arbitraire une logique interne profonde qui pourrait se résumer en « ni Dieu, ni maître ». La déclaration du président, que je citais pour commencer, déclaration d'avril 85, en est une preuve. Il rappelait que c'était en 1789 que la Révolution française énonçait ce principe, disait-il, jamais entendu dans le monde, que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Idée neuve, donc, disait-il, que jamais personne n'avait énoncé. Or, la déclaration américaine de 1776, antérieure donc, de quelques années, comportait « Tous les hommes ont été créés égaux, ils sont pourvus par le... » Mais il ajoutait « Ils sont pourvus par le Créateur de certains droits inaliénables. » Si donc la déclaration de 89 énonce un principe nouveau, ce n'est pas tellement l'énoncé de l'égalité qui avait déjà été affirmé auparavant, c'est dans l'origine, la source, la raison de cette égalité. Aucune référence en 89 au Créateur, les hommes naissent égaux en droit parce qu'ils se veulent, parce qu'ils se proclament comme tels. Le fondement des droits de l'homme, c'est donc la volonté humaine. Ce sont les hommes eux-mêmes qui s'investissent des prérogatives dont d'ailleurs ils pourront ensuite arbitrairement se dépouiller. Ce même esprit se retrouve dans la déclaration de 1948. Et je citerai pour caractériser cet esprit, trois articles sur lesquels nous allons revenir, trois articles qui reflètent particulièrement l'état d'esprit de cette déclaration, qui sont comme l'ossature de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 3 précise le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. L'article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Les bornes ne peuvent être définies que par la loi. Enfin, article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Article 3, principe de toute souveraineté, donc, réside essentiellement, et le mot est très fort, réside essentiellement dans la nation. Article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. La déclaration de 1948, celle de l'ONU, déclaration universelle des droits de l'homme, ne corrige pas ces articles. Elle affirme, à l'article, cependant, à l'article 21, 3, que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il y a là une restriction apportée à, au domaine dans lequel s'exerce cette souveraineté qui réside dans la nation, alors que la déclaration de 1789 disait « Nul corps, nul individu peut exercer l'autorité qui n'émane de la nation ». La déclaration de 1948, il faut le souligner, précise que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Nous aurons l'occasion de le repréciser. Trois domaines se trouvent donc directement concernés, celui de l'égalité, celui de la liberté, celui de l'autorité. Voyons où cette déclaration donc, conduit dans chacun de ces trois domaines. L'égalité. Les droits de l'homme supposent l'égalité de nature, égalité indiscutable, tant qu'il s'agit des caractères permanents et universels de la nature humaine. Mais les droits de l'homme supposent que cette égalité entraîne, ipso facto, une égalité de droits. Qu'il y ait des droits fondamentaux liés à la nature humaine, droits valables pour tous, puisque tous ont en commun cette nature, c'est certain. Mais est-ce bien de cela qu'il s'agit dans l'esprit de 89 ? Il ne me semble pas, car tous les héros de ces droits interprètent en fait cette égalité de droits pour supprimer, ou tenter de supprimer, des différences parfaitement naturelles. Et dans cet esprit, toutes les distinctions entre nationalité, civilisation, âge, sexe, reçoivent l'appellation péjorative de discrimination. Il y a un souci de faire disparaître des inégalités de droits entre nationaux et étrangers, entre parents et enfants, entre hommes et femmes, entre employeurs et employés, voire entre coupables et innocents. Au nom de l'égalité, on devra accorder les mêmes droits à un couple d'homosexuels, aussi bien qu'à un ménage traditionnel. C'est au nom de l'égalité des droits entre hommes et femmes que récemment Mme Tong a demandé au Parlement européen une enquête pour déterminer si le Vatican ne violait pas les droits de l'homme au chapitre des droits égaux au travail qui inclurait le ministère sacerdotal. Ce sens égalitaire, qui comporte la confusion entre droits innés et droits acquis notamment, va à l'encontre du sens commun et qui observe que la vie ne reflète pas ce type d'égalité, que la société repose sur la complémentarité, que l'homme et la femme ne sont pas égaux mais complémentaires, que l'égalité des chances n'est qu'une expression très ambiguë, et qu'à la limite, des êtres qui seraient strictement égaux, n'auraient plus rien à échanger entre eux, ne pourraient s'unir en une société. Et la discrimination est en quelque sorte, je dirais, consubstantielle, pour utiliser un terme que maintenant on trouve partout, à la notion de société. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait inclure ici une réflexion sur le principe de subsidiarité qui comporte notamment, dit Mme Chantal Delsol, dans une petite fascicule sur la subsidiarité, publiée chez Le Sage, cette subsidiarité comporte un renoncement à ce qu'elle appelle l'égalité des apparences. Il y aurait là une réflexion sur la philosophie de la responsabilité. L'égalitarisme mériterait, bien sûr, qu'on s'y arrête, mais envisagé sous cette forme, donc, est beaucoup plus un mythe qu'une réalité. Il est très largement exploité par certains qui, pour imposer leur pouvoir de façon masquée, se servent de toutes les ressources de la démagogie. Et on a pu dire de ceux-ci qu'ils étaient plus égaux que les autres. Autorité. Eh bien, de cette conception de l'égalité, du mythe égalitaire, ne peut naître qu'une notion d'autorité collective. On parlera de volonté générale, même et surtout s'il s'agit de la volonté de quelques-uns forgeant l'opinion. On parlera de volonté générale, de souveraineté résidant essentiellement, et j'ai souligné ce terme, dans la nation. Cet article 3 de la déclaration de 1789 va très loin, je l'ai dit, va beaucoup plus loin que celui de 1948. Tant qu'il y eut en Europe des monarchies, des dictatures, on ne s'est pas avisé que les autorités extérieures à la politique tombaient sous le coup de la proclamation d'illégitimité. Pourtant, il est bien écrit, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation. Je pense ici aux autorités religieuses ou sociales. Qui dira qu'il existe pourtant dans la société tout un éventail d'autorités, les unes naturelles, les autres surnaturelles, qui ne sont absolument pas fondées, par exemple, sur le suffrage universel. Autorité, par exemple, des chefs de famille, des parents sur les enfants, des maîtres sur les enfants, des chefs d'entreprise. Or, dans tous ces cas, ce qui légitime l'autorité, c'est le bien commun, et ce n'est pas le suffrage. En fait, ce qu'écarte la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'autorité du Créateur sur les créatures. Le Créateur a créé l'homme être social, c'est-à-dire un être qui ne peut absolument pas se passer de la société. Or, il ne peut y avoir de société sans autorité qui veille, qui garantit son bien commun. Ce qui légitime l'autorité, c'est le service du bien commun. Toute autorité provient ainsi du Créateur, puisque la nature humaine est profondément sociale, a besoin de cette société, qu'il n'y a pas de société sans autorité.
C'est la naissance de omnis potestas à Dieu. C'est donc l'autorité du Créateur sur les créatures qui est en fait refusée à travers cette expression de souveraineté résidant essentiellement dans la nation. Autorité du Créateur qui se manifeste notamment par l'existence de lois universelles irréformables, objectives, dont le respect est un élément fondamental du bien commun. Plus rien ne s'oppose alors à l'homme, autre que la loi qu'il se donne, que les décrets qu'il rédige. Et paradoxalement, ces lois, ces décrets, sans référence, conduisent au totalitarisme. Ce qui permettait par exemple à Staline en 1936 de dire que la constitution qu'il promulguait était la plus démocratique du monde. Et, comme demande Jean Latiran, en effet, elle l'était dans la mesure où elle éliminait le plus rigoureusement possible toutes les légitimités qui prétendent se fonder sur autre chose que sur le suffrage universel. Liberté, enfin. À l'article 4, nous avons une définition libérale de la liberté. Libérale, d'ailleurs, quand on parlait de la philosophie des droits de l'homme au siècle dernier, on utilisait l'expression « idée libérale ». Définition libérale de la liberté qui est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et là, tout le libéralisme, c'est vrai, il faut le dire, et toute l'anarchie libérale, dans les domaines intellectuels et moraux, est contenue en germe dans cet article 4. Cette idéologie, à la fois philosophique et religieuse, politique et morale, économique et sociale, trouve son expression, je dirais la plus résumée, dans des paroles bien connues du chant révolutionnaire, par ailleurs très beau, qu'exprime le cœur de Nabucco de Verdi, « Liberté, tu es notre seule vérité ». Il y a là une inversion sur laquelle nous avons l'occasion de revenir. Là encore, comment constituer une société sur un tel principe? La société n'exige-t-elle pas des devoirs, des obligations, toujours au nom du bien commun, au service du bien commun? Est-ce compatible avec ce principe qui voudrait fonder la vie en société sur cette affirmation, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis? Est-ce suffisant pour effectivement vraiment se mettre au service du bien commun que de se limiter à une telle définition? Se confirme ici, en fait, l'esprit qui sous-tend la déclaration. L'homme veut se libérer de toute loi qu'il ne s'est pas lui-même donné. On l'avait dit pour commencer, il y a dans la déclaration des droits de l'homme un souci de condamnation des abus effectivement condamnables et qu'il est sain de réprouver, mais en s'attachant à rejeter l'arbitraire, elle introduit une nouvelle définition de la liberté. Une chose est d'être d'accord pour obtenir et éliminer tout arbitraire dans la vie sociale et politique, c'en est une autre de s'entendre sur ce qui est réellement arbitraire et ce qui ne l'est pas. Pour achever cette très brève analyse, présentation plus exactement, de la Déclaration des droits de l'homme, je noterai qu'en faisant de la volonté de l'homme libérée de toute autorité qui lui soit supérieure, en agissant ainsi, cette déclaration élimine toute transcendance. Bien sûr, le deuxième paragraphe de cette déclaration, du préambule de la déclaration, évoque l'être suprême, disant l'Assemblée nationale déclare et en présence et sous les auspices de l'être suprême les articles suivants. Mais en fait, la déclaration traduit un athéisme politique radical. Il n'est pas interdit de croire en Dieu, mais ce Dieu ne doit exercer aucune autorité sur l'homme. Il y a là une marque, une empreinte maçonnique indéniable. Concluons ces constats. Il y a dans l'expression « droit de l'homme » quelque chose de séduisant, dans la mesure où l'on sous-entend que le but visé est de respecter un certain nombre de droits, et donc de dresser un catalogue de devoirs vis-à-vis de l'homme, d'obligations des hommes entre eux. Mais, en examinant la déclaration de 89 et l'esprit de ses défenseurs, ne voit-on pas plutôt, au lieu de droits à respecter, des droits à revendiquer? Cette déclaration ne favorise-t-elle pas un individualisme forcené, l'individualisme forcené de nos sociétés modernes, que de Marcel de Corte appelait des dissociétés. Quant aux droits énoncés, ont-ils un fondement solide qui déterminerait de façon irrévocable l'interprétation à laquelle un texte peut toujours être soumis. Il semble bien que non. J'avais dit dans l'introduction, en évoquant les marchandises très diverses qui circulent sous cette déclaration. Je citerai ici, pour achever cette première partie, un texte de Michel Villet dans « Le droit et les droits de l'homme ». Il montre qu'en fait, la conception moderne des droits de l'homme a servi à justifier des objectifs tout à fait contradictoires. C'est la conclusion du chapitre qu'il consacre aux droits de l'homme au XVIIe siècle. Il analysait dans ce chapitre les précurseurs qu'ont été les Anglais Hobbes et John Locke. Et je cite ici Michel Villet disant « Ô médicament admirable, propre à tout guérir jusqu'aux maladies que lui-même a produites. Manié par Hobbes, les droits de l'homme sont une arme contre l'anarchie, pour l'instauration de l'absolutisme. Maniés par Locke, ils sont un remède à l'absolutisme pour l'instauration du libéralisme. Quand se révélèrent alors les méfaits du libéralisme, ils ont été la justification des régimes totalitaires et des hôpitaux psychiatriques. En Occident, notre ultime recours, ils sont notre ultime recours contre l'État absolu, mais s'ils étaient pris au sérieux, ils nous ramèneraient à l'anarchie. Outil donc à tout faire que ces droits, encore Michel Villet, on en fit usage au profit des classes ouvrières ou de la bourgeoisie, des malfaiteurs contre les juges, des victimes contre les malfaiteurs. Mais attention, il faut choisir. Ou bien on parle du bien des uns, ou bien on parle du bien des autres. On n'a jamais vu dans l'histoire que les droits de l'homme puissent exercer au profit de tous. L'ennui avec les droits de l'homme est que nul ne saurait en jouer qu'au détriment de certains autres. À quoi tient l'énorme succès de ce lieu commun des droits de l'homme dans la rhétorique contemporaine ? À ce qu'ils réussissent à voiler le revers qu'en militant pour ses droits contre le Shah d'Iran, nous aurons aidé à l'instauration du régime de Khomeini. Ainsi, les philosophes modernes nous gratifièrent-ils d'un langage dont le résultat le plus clair est une plongée dans le brouillard. Langage indistinct, dangereusement flou, générateur d'illusions et de fausses revendications impossibles à satisfaire. Il y a là une je dirais comme un regard porté par un juriste vu de l'extérieur, qui regarde qu'il faut donc compléter par l'intention profonde de libération de l'homme de toute règle qui ne serait pas lui-même donnée. Il y a donc la motivation profonde et puis l'observation des résultats tels que Michel Villet nous propose. Et pourtant, il paraît raisonnable de penser que l'homme dispose de droits et que les droits de l'homme ne sont pas qu'une expression vague, manipulable par des idéologues de tous bords. Et pour le montrer et découvrir que ce sont ses droits, ce que sont ses droits, il faut s'interroger sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'est le droit. J'ai dit qu'il paraît raisonnable, car notre démarche dans cette deuxième partie restera du domaine de la raison, éclairée par la philosophie réaliste, celle d'Aristote et du thomisme. Vous savez que cette philosophie a été, est celle qu'adopte en tant que philosophie l'Église catholique. Aussi, je pourrais être amené à citer dans cette partie un certain nombre de textes émanant du Saint-Siège, mais il faut bien avoir présent à l'esprit que nous restons dans le domaine de la raison, je le disais, éclairée par la philosophie réaliste. Je pourrais donc citer des papes, mais j'insiste, nous restons dans le domaine de la raison et non de la foi, domaine de la connaissance par une démarche de l'intelligence et non par la révélation. Les références à Dieu sont ainsi, dans cette partie, des références au créateur, je dirais, dont l'existence est induite de l'ordre constaté dans l'univers par les réalistes. Certes, pour les catholiques, pour les croyants, ce Dieu n'est pas distinct du Dieu rédempteur, mais je n'aborderai qu'en conclusion, dans la troisième partie du prêtre, les conclusions, cet éclairage complet catholique. Dans cette deuxième partie, il s'agit bien donc de déterminer, d'analyser, d'étudier s'il existe des droits de l'homme et de faire cette étude éclairée par la philosophie réaliste. Et je l'ai dit, il faut s'interroger sur la nature de l'homme. C'est le premier point. Employer ici le mot de nature risque d'introduire une ambiguïté parce qu'il a deux sens. Il peut être pris, ce que nous ferons nous, au sens métaphysique, d'essence, comportant une certaine finalité et naturelle, alors ce qui répond aux exigences et aux inclinations de l'essence, ce à quoi les choses sont ordonnées en raison de leur type spécifique. Il est naturel, par exemple, de rendre gloire à Dieu, les philosophes grecs en étaient conscients, ils étaient parvenus parfaitement à cette notion, indépendamment de la révélation. C'est dans la nature de l'homme. Et puis, il y a un deuxième sens de nature, celui d'état primitif. Et en ce sens, par exemple, on pourrait dire que être nu est naturel parce que la nature ne fournit pas de vêtements. Une chose, un acte, seront dits alors naturels, selon cette seconde conception, non pas parce que la nature y incline, comme de ne pas voler, comme de ne pas tuer, mais seulement parce que la nature n'assure pas du premier coup la disposition contraire. Et puisque les hommes sont tentés, dira-t-on, par la femme du voisin, eh bien on dira que cette attitude est naturelle. Mais comme la vie en société ne serait pas possible dans le sens de développer ces droits de la nature au second sens du terme, on aura recours au contrat social de Rousseau. Ainsi, on a bien une conception classique des droits naturels, avec le premier sens donné à nature, c'est-à-dire lié à la nature humaine, lié à la permanente, au caractère permanent de la nature humaine, et d'autre part, une conception moderne qui naît au XVIIe siècle, thème de l'état de nature, du bon sauvage, et qui est à la racine de la déclaration de 89. Et de chacune de ces deux philosophies découlent deux conceptions de la liberté, deux conceptions de la dignité de l'homme et de l'autorité de la société. J'insiste sur la démarche que nous suivons là. Je l'ai située dans la ligne d'une philosophie réaliste. Je veux dire par là que nous partons des faits. Nous partons de l'observation des faits, à la différence de Rousseau, justement, idéaliste, qui disait « écartons les faits, ils ne touchent pas à la question ». Ainsi, nous notons que notre intelligence perçoit, au-delà de la diversité des apparences et des traits spécifiques, notre intelligence perçoit qu'il existe des données permanentes de la nature humaine, elle dégage du réel observé, et par corrélation des jugements dont elle est capable, que par nature l'homme est libre, qu'il est animé d'une âme spirituelle immortelle, ordonnée à une fin dernière. Notre intelligence conduit ensuite de cet ordre constaté à l'existence d'un Dieu personnel et de là à la notion d'obligation morale. Elle établit des liens entre les moyens et les fins, c'est-à-dire qu'elle découvre, et non invente, la différence est essentielle, ce qui est adéquat à la nature humaine. Et l'ensemble des liens, l'ensemble des lois qui découlent de la nature humaine et qui s'imposent pour gérer son activité propre, cet ensemble de lois que l'homme connaît ainsi par la lumière de sa raison, constitue la loi naturelle. Ce n'est pas là du tout une création arbitraire, c'est en quelque sorte le recueil des idées de la nature, ou mieux, le recueil des idées du créateur, le mode d'emploi de la création. D'où l'on peut parler d'une loi non écrite, mais inscrite de la main même du créateur sur les tables du cœur humain, et où la saine raison peut lire quand elle n'est pas aveuglée par la passion. L'homme a comme l'intuition, donc, de cette loi, quand il n'est pas aveuglé par la passion, et sa raison peut confirmer cette intuition. La raison humaine a le pouvoir de découvrir, donc, et de comprendre par ses propres forces les vérités de la loi naturelle. C'est dans cette perspective réaliste, donc, et profondément réaliste, que nous pouvons considérer la notion de dignité de l'homme et de sa liberté dont on s'entend à faire le fondement de ses lois. Il s'agisse en effet de l'encyclique de Jean XXIII ou du préambule à la Déclaration universelle elle-même, on lit que les droits de l'homme trouvent leur source immédiate dans sa dignité, que c'est le respect de cette dignité qui donne naissance à leur protection effective, qui les rend inaliénables et inviolables. Mais cette dignité, il faut bien voir qu'elle prend elle-même sa source dans la liberté. Et nous voyons bien dans la perspective réaliste où nous sommes placés que cette dignité est attaché à la nature humaine, capable de connaître sa finalité, sa fin dernière, de connaître, de découvrir les moyens nécessaires pour y accéder, et d'y accéder en toute liberté. Mais ce qu'il est possible de dire de cette perfection de la nature humaine, liée à cette merveilleuse capacité, ne peut, au niveau de chaque personne, être dissociée de la façon dont cette capacité est mise en œuvre. La liberté n'est pas au commencement, si l'on peut dire, bien que fondamentalement l'homme soit libre, mais la liberté, cette liberté se développe par tout ce que l'on appelle l'éducation, l'éducation rend libre. Et dans sa dernière encyclique, Jean-Paul II, dans Veritatis Splendor, écrit la dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient, et l'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, il marche vers sa destinée et, par sa lumière, dans la lumière de sa raison naturelle, accède à la loi naturelle. Un peu plus loin, dans un autre passage, Jean-Paul II dira « C'est toujours de la vérité que découle la dignité de la conscience. » On ne peut donc séparer liberté de vérité, vérité qui, dans l'ordre temporel, s'exprime par la loi naturelle. L'homme, en raison de sa nature, donc nature entendue au sens où je viens de développer, nature reçue du Créateur, est sujet de droit, non pas de droit qu'il invente au nom d'une liberté sans contrainte, mais qu'il découvre en liant par son intelligence sa raison d'être au moyen apte à la servir. Il le lie par son intelligence sa raison d'être au moyen apte à la servir. Parlons de la nature de l'homme et donc de sa liberté. Il faut donc aussitôt ajouter qu'il est, qu'il est dans la nature de l'homme de vivre en société. L'homme est un être social, nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire qu'il lui est absolument nécessaire de vivre avec d'autres, qu'il en a le besoin le plus profond. L'homme isolé ne se conçoit pas. Dieu a créé l'homme le moins possible, disait Blanc de Saint-Denis. L'homme a besoin de tout recevoir des milieux dans lesquels il vit. La société est donc faite pour l'homme, c'est-à-dire qu'elle doit respecter ses droits, nous venons en parler, mais en même temps, il n'y a pas de société sans autorité, pas de société sans participation de tous à créer les conditions nécessaires, non pas seulement pour vivre, mais pour mieux vivre. La société est donc pour l'homme, mais elle existe par l'homme. Aux droits correspondent donc des devoirs qui constituent le service du bien commun. Ces devoirs, eux aussi, ne sont pas inventés par notre intelligence, mais ils s'inscrivent dans la loi naturelle. Et le catalogue de ces devoirs, c'est le décalogue, ce sont les 10 commandements. Après cette réflexion sur l'homme, qui a introduit une conception des droits et une conception des devoirs liés à la nature humaine, il faut dire quelques mots de la notion de droit. Comment définit-on le droit ? Il y a deux grandes définitions de droit. On peut entendre le droit dans deux sens. D'une part, premier sens, envisagé comme la faculté morale appartenant à une personne, donc faculté morale, de faire, d'avoir ou d'exiger justement quelque chose. J'ai le droit d'avoir, c'est le sens qu'on donne à droit dans cette expression, j'ai le droit de, faculté morale, donc appartenant à une personne, de faire, d'avoir ou d'exiger justement quelque chose. Et puis il y a un deuxième sens du mot droit, qui est l'ensemble de règles qui régissent les hommes entre eux. On parlera de droit naturel, comme nous venons de le faire, de droit positif, etc. On peut relier, les deux sens là, donnés à ce mot droit ne s'excluent pas. Remarquons tout de suite que le lien inséparable, en tout cas, entre le droit et qu'on envisage dans un sens ou dans l'autre, et la justice, entre le droit et ce qui est juste. Nous disions faculté morale de faire, d'avoir, de juger justement quelque chose. Dans tous les cas, l'objet du droit ne peut être qu'une chose honnête. Et il y a une contradiction dans les termes que de parler de droit à l'erreur ou de droit au suicide. Et si j'insiste sur le premier aspect de la définition donnée à droit, faculté morale, de faire, d'avoir ou d'exiger justement quelque chose, eh bien, faculté de faire, cela suppose que les autres ont le devoir de me laisser faire. Faculté d'avoir, ce qui suppose que les autres ont le devoir de respecter ma propriété. Faculté d'exiger, ce qui suppose que les autres ont le devoir de se soumettre à cette exigence. Le droit qui m'appartient, donc, nécessairement, implique dans une autre personne le devoir positif de me procurer quelque chose.
ou du moins le devoir négatif, de ne pas me troubler dans l'exercice de la faculté que j'exerce. Et réciproquement, le devoir qu'a cette personne suppose en moi un droit corrélatif. Ainsi, le droit pris dans toute son étendue renferme deux éléments, à l'égard du sujet, ce qui lui est licite, et à l'égard des autres, ce à quoi ils sont tenus. En conséquence, les droits et les devoirs se correspondent mutuellement. Cette remarque évidente que droits et devoirs se correspondent, qu'il est impossible de parler de droits sans évoquer au moins implicitement des devoirs correspondants, a été très souvent perdue de vue, d'où l'irréalisme de certaines revendications de droits non assorties de déclarations de devoirs. Il y a un certain irréalisme, par exemple, à évoquer le droit à la santé. D'où l'intérêt d'une formule utilisée par le père Calvez dans un sermon qu'il faisait à propos du cours de sermon de Carême de Notre-Dame, et disant, quand on parle de droit de l'homme, il s'agit de droit de l'homme à respecter beaucoup plus que de droit de l'homme à revendiquer. J'ai déjà utilisé cette distinction tout à l'heure. Or, des droits à respecter, eh bien, cela signifie des devoirs. Et si étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, il se trouve que lorsque les devoirs sont remplis, les droits sont respectés. Si étrange, en effet, pour une société qui ne connaît comme devoir que celui de faire valoir ses droits. Et si chacun connaît et pratique ses devoirs, eh bien, le respect des droits corrélatifs en résulte. Et on l'a dit, ce catalogue des devoirs, la déclaration des devoirs, eh bien, ce sont les 10 commandements, c'est le décalogue. On peut aller plus loin dans la réflexion sur les droits et introduire une distinction entre droits innés et droits acquis. Droits innés, eh bien, je dirais que cela va de soi, après ce que nous avons dit, ils découlent de la finalité à laquelle l'homme est destiné par sa nature, en tant que cette destination lui donne la procure, lui confère la faculté de se procurer ce qui est nécessaire pour atteindre cette fin. Ces droits sont donc immédiatement inhérents à la nature humaine et ils ne peuvent être ni aliénés, ni périr quant à leur substance, bien que l'homme puisse s'abstenir d'en faire usage lorsqu'il n'est pas obligé à lui renoncer formellement, comme le fait celui qui renonce par des vœux au mariage, le droit au mariage est un droit naturel, mais donc auquel l'homme peut renoncer par des vœux. À côté de ces droits innés, droits fondamentaux, droits inhérents à la nature humaine, il y a les droits acquis qui, eux, reposent immédiatement sur un fait libre et contingent, d'où il résulte qu'on peut les perdre ou les transférer à une autre personne. Le droit de propriété est un droit. Les droits innés, ce sont donc ceux qu'on tient de la nature. Et j'ai tenu à insister sur cet aspect d'ordre naturel d'existence d'une nature humaine. Ce sont donc ceux que l'on tient de la nature. Ils sont inhérents à la nature de l'homme, ils ne peuvent pas en être séparés, ils sont communs à tous les hommes. Ces droits, donc, l'homme a droit qu'on n'empêche pas d'en jouir. Avec eux, on touche les fondements, les racines mêmes de la société, comme l'a indiqué le pape Pie XII à plusieurs occasions. Et parlons des questions sur lesquelles les États sont amenés à légiférer, Pie XII dit qu'il est des questions qui touchent aux racines mêmes de la société, à l'inviolabilité de la personne humaine, à ses droits inaliénables, donné par Dieu, antérieur à l'État, et que l'État lui-même ne peut enfreindre sans compromettre sur sa propre existence. Et en premier lieu se trouve parmi ses droits la liberté de pratiquer la religion. Dans un autre discours, Pie XII précise que ces droits innés ne peuvent en aucun cas être sacrifiés à ce qu'il appelle une prétendue raison d'État. Dans un autre encore, après avoir déclaré la loi naturelle voilà le fondement de la doctrine sociale de l'Église, il ajoute: ces droits essentiels sont tellement inviolables que contre eux, aucune raison d'État, aucun prétexte de bien commun ne saurait prévaloir. Ils sont protégés par une barrière infranchissable. En deçà, le bien commun peut légiférer à sa guise. Au-delà, il ne peut toucher à ses droits, car ils sont ce qu'il y a de plus précieux dans le bien commun. Si on respectait ce principe, ajoute-t-il, que de catastrophes et dangers menaçants seraient enrayés. À lui seul, il pourrait renouveler la physionomie sociale et politique de la Terre. Quels sont ces principaux droits, donc, droits liés à la culture de l'homme. Le père de Corbière montre que dérivant des biens de la nature, une analyse, c'est bien des natures humaines qui sont l'être en premier lieu, être composé d'une âme spirituelle dotée de facultés, de jugement,
sont l'usage des sens et la possibilité d'agir à l'extérieur. L'objet du jugement étant donc le vrai, l'homme a droit de connaître la vérité. L'objet de la volonté étant le bien, l'homme a droit de poursuivre la possession. Le bien étant d'abord le souverain bien de Dieu, qui seul peut rendre l'homme parfaitement heureux. Mais aussi les autres biens conformes à sa nature et à sa fin. Et parce qu'il a un corps, il peut faire tout ce qui n'est pas contraire à son devoir, il a le droit de pourvoir à sa conservation personnelle et à son bien-être. Sinon, au niveau tout à fait supérieur, je dirais, quoi font ensemble ces droits naturels et imprescriptibles de l'homme, la connaissance de la vérité, la poursuite du bien nécessaire à sa bonheur et à sa fin, la liberté ou le pouvoir de faire tout ce qui n'est pas contraire au devoir, la conservation de sa personne et de ses biens. Ces droits sont naturels parce qu'ils proviennent de la nature et que sans eux, les biens que l'homme a reçus de la nature lui seraient plus utiles. Pie XII résume et énumère ce qu'il appelle les droits fondamentaux de la personne. Le droit à entretenir et à développer la vie corporelle, intellectuelle et morale, en particulier le droit à une formation et à une éducation religieuse. Le droit au culte de Dieu, privé et public, y compris l'action charitable religieuse. Le droit, en principe, au mariage et à l'obtention de sa fin. Le droit à la société conjugale et domestique. Le droit au travail, comme moyen indispensable à l'entretien de la vie familiale. Le droit au libre choix d'un état de vie, et donc aussi de l'état sacerdotal et religieux. Le droit à l'usage des biens matériels dans la conscience des propres devoirs et des limites sociales. Il faudrait développer, bien sûr, chacun de ces droits. Nous n'avons pas le temps de le faire. Pour achever cet exposé et laisser la période de questions, je voudrais maintenant dépasser, dans cette conclusion, le plan de la raison de l'ordre naturel. En partant toutefois de cette affirmation qui, elle, est de l'ordre naturel, est d'ordre naturel, que Dieu est le fondement du droit. Affirmation d'ordre naturel, puisque Platon écrivait « Dieu est pour nous, en première ligne, la juste mesure de toute chose, beaucoup plus qu'aucun homme ne peut l'être. » Pie XII pose de son côté la question « Qui donc aura ce respect inconditionnel des droits de l'homme, sinon celui qui a conscience d'agir sous le regard d'un Dieu personnel ?» L'Église répond « Mais alors là, avec une plénitude et une profondeur qui prolonge, en quelque sorte, la réponse platonicienne. Elle la transfigure, pourrait-on dire, le surnaturel venant imprégner le naturel. Elle déclare avec saint Paul que toute paternité dérive de Dieu. Elle affirme, en conséquence, que pour régler les rapports mutuels dans la famille humaine, tout droit a sa racine en Dieu. Et ici, ce n'est plus uniquement le Dieu créateur, celui des philosophes et des savants que peut-être Pascal a eu tort de dissocier de celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu Trinité, c'est le Dieu amour, Dieu rédempteur et sauveur. On ne peut séparer la loi naturelle, le décalogue, des béatitudes. Et pour une religion de l'incarnation, la vérité de Dieu sur l'homme ne reste pas que spéculative. C'est dans ce contexte qu'il faut parler de la dignité de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. De l'homme créé, de nouveau recréé par la rédemption, de l'homme intégré au Christ, de l'homme tel qu'il est voulu par Dieu, choisi par lui de toute éternité, appelé, destiné à la grâce. Dans la vérité du Christ, peut-on dire, apparaît la vérité de l'homme et sa dignité restituée. La dignité de la nature humaine est historiquement un concept chrétien. Et dans ce domaine des droits de l'homme, plus peut-être qu'en beaucoup d'autres, la formule de Chesterton est très exacte lorsqu'il évoque les idées chrétiennes, les idées de la Révolution, les idées des droits de l'homme, comme des idées chrétiennes devenues folles. Grandeur, dignité de l'homme, il ne s'agit pas du tout de faire de l'anthropocentrisme, ni d'instaurer un christianisme humanitaire du style de la prétendue théologie de la libération. Lorsque Pie XI affirme que l'homme est véritablement la fin, le centre auquel tout est ordonné, dans un discours au prédicateur de Carême en 1927, il n'occulte pas le fait que Dieu est au centre de la philosophie de l'homme et de ses droits, et que ceux-ci doivent être situés à leur place, qui est ce monde. Droits de l'homme, donc, et droits de Dieu, sont respectés ensemble ou violés ensemble. Le pape Jean-Paul II disait, à l'occasion d'une béatification, il s'agit de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, ce n'est qu'alors que sera aussi donné à l'homme ce qui appartient à l'homme. Et au Brésil, en 1980, les droits de l'homme n'ont de vigueur en vérité que là où sont respectés les droits imprescriptibles de Dieu, et l'engagement à l'égard des premiers est illusoire, inefficace et peu durable s'il se réalise en marge ou au mépris des seconds. Qu'avons-nous fait pendant cette petite heure, sinon de poser une question et de tenter de donner des jalons, des pistes de réflexion? Et cette question, c'est au fond celle de la place de l'homme dans la société. C'est celle du fondement de la politique. Le clivage aujourd'hui en politique n'est pas entre droite et gauche, mais entre ceux qui, d'une part, défendent l'ordre naturel, question fondamentale à approfondir parce qu'elle conduit à la notion de vérité en politique, véritable fondement des droits de l'homme dans la société, question fondamentale que ces questions de l'ordre naturel, puisqu'elle conduit à la notion de vérité dans l'ordre politique, vérité des droits et des devoirs. Le clivage est donc entre ceux qui défendent ce fondement, ces droits fondés sur l'ordre naturel, et ceux qui, d'autre part, y opposent le concept moderne des droits de l'homme fondés sur une liberté érigée en valeur absolue. Le problème central de la politique est là, c'est celui de la liberté et de la vérité. C'est bien là le problème de la politique. Alors, je vais essayer de tenter de répondre aux questions que cet exposé peut avoir suggéré. Habituellement, nous avons le texte écrit de nos exposés. Il fait l'objet d'un petit fascicule, d'une petite brochure qui s'appelle Philosophie de la révolution et droits de l'homme, qui est hélas épuisé aujourd'hui. Mais je ferai parvenir, comme vous me l'avez demandé, le texte, ce texte que vous chargerez éventuellement de le diffuser.
Le droit à la nation, le droit à la langue, ce sont des droits innés, naturels. Le droit à sa religion.
L'homme est par nature un être social. Il est fondamentalement par nature un être social. Il a donc besoin de... Il ne peut pas vivre isolé. La famille n'est pas suffisante. La famille est une société pour cette raison on appelle une société imparfaite. Et donc, la famille doit être incluse dans un ensemble de plus grand qui est la société politique. On peut dire que profondément lié à la nature de l'homme, il y a la famille et l'État. L'État, on s'est entendu comme société politique. Le pape Pie XII disait « L'État est, après la famille, l'institution la plus fondamentale. » La nation ne se situe pas, à mon sens, au même niveau. On ne parlait pas de nation, par exemple, au Moyen-Âge, parce que ce qui faisait l'unité, c'était la foi chrétienne, finalement, tant au Moyen-Âge occidental, au Moyen-Âge Europe occidentale. Par contre, l'éclatement de la chrétienté, à partir de la Réforme, a rendu nécessaire cette vie nationale. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, le dit, il y a un droit de la nation. Mais je ne mettrai pas ce droit de la nation, je dirais qu'il est plus circonstanciel que fondamentalement lié à la nature de l'homme. Si l'on fait bien cette distinction, que ce qui est absolument nécessaire pour l'homme, c'est de vivre en société, et que c'est donc la famille et l'État et l'organisation politique qui lui est absolument nécessaire. Et qu'aujourd'hui, par contre, alors, les circonstances font qu'il y a un véritable droit de la nation, qu'aujourd'hui, si on dépouille l'homme de la nation, on enlève tout ce qui lui reste.
déclaration américaine de l'indépendance est-elle vraiment d'inspiration chrétienne?
Sûrement pas. Sûrement pas. Tel qu'on connaît l'histoire de l'Amérique, certainement pas.
Si vous voulez creuser ce problème, il y a deux livres récents de Solange Hertz qui s'intitulent Utopie et puis l'américanisme, qui font le point sur le caractère maçonnique, libéral, révolutionnaire de tous les textes américains, y compris la déclaration de 1776. C'est au contraire l'origine fondamentale des révolutions qui ont succédé. Et toutes les révolutions postérieures à 1776 se sont inspirées, se sont référées au modèle américain qui est fondamentalement nouvel. En tout cas, je ne peux pas trop souligner l'importance de ces deux livres. Pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, l'utopie et l'hérésie à la manière étoilée et l'américanisme. L'idéologie américaine et ses conséquences en politique et en religion, aboutissant au Concile Vatican II, sont remarquablement analysés dans ces deux livres de Saint-Angers, ce qui malheureusement n'existe pas en français.
Quel est le texte?
C'est édité par Veritas Press. Veritas Press, boîte postale PO Box 1704. PO Box 1704, Santa Monica, Californie, code postal 90-406.
90-406. Non, il faut que votre micro, je parle assez fort. Si ça s'adresse à monsieur. Moi, je suis arrivé, je suis allé en la conférence, excuse, si vous y avez déjà répondu, on est content de répondre. Mais que, concernant le livre qui est fait, selon j'aimerais ça en entendre parler, qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans la Constitution américaine et quel rapport vous voyez avec Vatican II? J'essayais de vous suivre et je n'arrivais pas à faire des connexions. Je sais pas si, mais sentez-vous libre de répondre parce que je sais que c'est pas dans le cadre de.
Les principes qu'a développé l'Éléonard Berger se retrouvent dans la Constitution américaine, le principe des unités, le principe de tout libéralisme révolutionnaire qui se retrouve dans ce texte de 1776, qu'on retrouve avec des formulations quelque peu exceptionnées dans la Déclaration des droits de 1789. Si vous voulez répondre avec précision à votre question, il faudrait établir sur deux colonnes une comparaison entre le texte de 1776 et le texte de 1789. Il y a certainement des différences, mais pour l'essentiel, c'est la même chose. C'est le même fond libéral, c'est la source des idées libérales qui s'enracinent dans la maçonnerie et qui a été formulée de deux façons différentes par les Américains et par les Français.
Et le rapport avec le Vatican II?
Écoutez, ça, je pense qu'il vaut mieux revoir ça. Je fais demain un exposé sur le thème Vatican II, rupture en continuité, et alors je serai amené à parler de ces questions-là. Je pense que si on en parle maintenant, ça me mènerait trop loin et ce serait imprécis.
Je comprends.
Alors, monsieur Levé, vous avez le micro?
Je n'ai pas de question.
Ah non, c'est vrai que oui.
Votre conférence, là, elle est complète dans le livre que vous avez hanté?
Elle est totalement dans ce petit fascicule. Voilà, effectivement. Mais nous ne l'avons pas aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous l'envoyer. Je me chargerai de le faire. Oui, elle est totalement dans ce petit fascicule.
C'est bon de revoir écrit.
On est obligé d'aller un peu vite, effectivement, dans des exposés comme ceux-là. Oui.
Peut-être une question.
Dans l'esprit chrétien au Canada, c'est la même chose aux
États-Unis. Dans le.
Je dis que dans le système judiciaire canadien, et c'est la même chose aux États-Unis, il y a le principe qu'on appelle le contrôle judiciaire des lois, c'est-à-dire que la Cour suprême peut invalider une loi qui n'est pas conforme à la charte canadienne, la charte américaine des droits. Je ne pense pas que ce système de contrôle judiciaire des lois existe en France.
Si. Donc, si, ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, qui, devant lequel il y a une certaine procédure, il faut qu'un certain nombre de parlementaires s'adressent au Conseil constitutionnel pour demander si la loi est conforme à la Constitution.
Donc, la question à ce moment-là est encore mieux, peut s'appliquer également à la France. Je me demande si il y a déjà des gens, peut-être vous l'avez déjà fait, qui ont rédigé un projet de charte chrétienne des droits dont un gouvernement pourrait s'inspirer et qui pourrait quand même permettre ce contrôle judiciaire, à donner un tribunal suprême la possibilité de contrôler les lois d'un gouvernement pour être sûr qu'il reste dans le cadre du droit chrétien. Est-ce qu'un tel document a déjà été préparé par quelqu'un?
Bon, oui, c'est à voir. Effectivement, je me souviens avoir lu un petit fascicule qui s'appelait « Les droits de l'homme, droits de Dieu » et où on connaît un certain nombre de choses. Mais, de façon très générale, pour répondre à votre question, je dirais que ce que j'ai rapidement dit tout à l'heure, c'est que on s'aperçoit que lorsque les devoirs de l'homme dans la société sont remplis, les droits sont respectés. Or, le catalogue des devoirs, c'est la loi naturelle, c'est l'ordre naturel, c'est le décalogue. Donc, je crois que la bonne référence pour étudier, analyser la conformité à la vérité d'une nouvelle loi, c'est de la référer au décalogue. C'est vraiment... vous me direz qu'il faut développer les dix commandements sont une synthèse et qu'il faudrait en déduire des choses peut-être plus pratiques, circonstancielles, en fonction de la situation actuelle, mais la référence fondamentale, elle est là. Et on devrait envisager que le préambule d'une constitution digne de ce nom renvoie au décalogue et renvoie au décalogue, absolument. C'est ce que font certains partis politiques. Il y a des partis politiques aujourd'hui qui s'affichent en référence au droit au décalogue.
Est-ce qu'il puisse y avoir des droits subjectifs sans rapport à un ordre objectif? Voilà ma question.
Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Parce que
je veux dire, on parle souvent des droits innés, oui, de la personne, mais sans rapport au bien commun, sans rapport au bien de la société. Donc, est-ce qu'il existe des lois innées sans rapport à notre objectif, soit l'ordre créé de Dieu ou le bien commun, etc., etc.?
Moi, je serais tenté de répondre non, dans la mesure où, si on analyse l'ensemble de la vie en société, de la vie politique, je ne vois que deux références qui sont l'ordre naturel et le bien commun. Je crois qu'on a vraiment totalement... personnellement, je pense, mais je ne me suis jamais posé exactement cette question comme ça. Et vous êtes peut-être plus compétent que moi pour en donner réponse, mais je crois qu'en politique, on a fait le tour complet. Chaque fois que, à propos d'un problème politique, qu'il s'agisse d'une politique familiale, qu'il s'agisse du respect de la vie, qu'il s'agisse de l'immigration, en fait, tous les problèmes se résolvent en référence au droit naturel et au bien commun. Je dirais droit naturel parce que ils sont attachés à la nature de l'homme, et que dans cette nature, il y a cette vie en société, donc référence au bien commun. Je ne sais pas si ma réponse vous convient tout à fait.
On peut ajouter une chose, c'est que si l'on prend la définition subjective du droit qui a été donnée, c'est-à-dire la faculté morale d'avoir dirigé, de faire justement quelque chose. Le mot justement est fondamental dans la définition des droits subjectifs, et par conséquent, on ne peut pas concevoir le droit en dehors d'une notion d'ordre qui est liée à la notion de juste. Et si vous prenez la définition objective des droits, le justum, ce qui est juste, c'est toujours une référence à l'ordre. Donc on ne peut pas séparer la notion de droit de la notion d'ordre, ordre naturel et ordre surnaturel.
C'est donc.
Nous remercions infiniment M. l'amiral Berger pour la clarté, la précision et la vérité de son discours. Et donc, nous vous convions ce soir à 19h30, salle 1A, sur la franc-maçonnerie à l'exposé de M. Delassus. Et mon ami aurait quelques informations à vous transmettre.
Il s'agit ici de vous donner quelques informations par rapport au déroulement du cercle d'études. Je dois vous annoncer que le numéro 2 du journal du CERF est paru. Alors, le journal porte pour nom le Carillon catholique. Il est en vente à la table de presse. Vous y trouverez aussi des ouvrages. Vous y trouverez en dernière page tous les titres, toutes les activités jusqu'au 14 janvier. Alors, outre les conférences qui ont déjà été annoncées, le mercredi 24 novembre, il y aura une messe chantée en grégorien à la salle 1256 au pavillon de Connaught. Le samedi 27 novembre, il y aura l'étude de l'encyclique Satis Cognitum. C'est à 13h30 à la salle 1211 au pavillon de Connaught. Le 6 décembre, c'est un lundi, il y aura une conférence publique qui portera sur le Nouvel Âge. Et c'est à 19h30 à la salle 2840 au pavillon Vachon. Celui qui se trouve à côté. Et puis, le lundi 3 janvier, à midi, c'est du 3 au 8 janvier, le cercle d'études organise, en collaboration avec la Fraternité Saint-Pédis, une retraite de Saint-Ignace qui aura lieu à Shawinigan. Vous êtes très vivement conviés. Vous trouverez les informations dans le journal. Ensuite, la session d'études, le 14 et le 15 janvier, la session d'études commence à 14h et se terminera le samedi 15 à 19h. C'est un vendredi et un samedi. Et aussi, je vais vous annoncer, on a des dépliants sur une activité qui est organisée de détente et d'études en même temps. C'est une fin de semaine de ski au Mont-Grandfond, dans Charlevoix, à la Malbaie. Et puis, on a réussi à avoir un prix qui est vraiment pas cher, de 75$ pour les 2 jours de ski, nourriture, hébergement et carte de ski inclus. Alors, bienvenue à tous les étudiants et tous les membres du CERF. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de journée.